Une révolte qui n'a jamais cessé. Je me sens toujours... C'est pas la vengeance, c'est pas... Je n'accepterai jamais. Mais je n'accepterai jamais, je n'oublierai jamais. Mais je veux dire que ma révolte, elle va aussi souvent au discours que l'on entend. D'une douleur immense de cette abomination d'avoir planifié et d'avoir réalisé, comme on ne l'a jamais fait, l'extermination d'un groupe.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, second épisode de cette semaine exceptionnelle consacrée à Simone Veil. Simone Veil, l'immortelle. Toute cette semaine, Sandrine Bonner lit en première partie des extraits du livre de Simone Veil intitulé sobrement « Une vie ». Et puis, en deuxième partie d'émission, nous avons rendez-vous avec Serge Klarsfeld pour son témoignage et son analyse de l'œuvre de Simone Veil. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Pia Colombo, La rue des Rosiers.
Il n'y a plus de roses dans la rue des Rosiers. Il n'y a plus de roses, elles sont mortes en été. C'était en plein marais, une rue où grouillait la vie belle et sa rage. Une rue qui sentait le hareng qu'on fumait et la folie des sages. Un bonjour se chantait, se riait, se criait, bonjour à la française. Un beau jour une affaire, un beau jour une misère, doux comme un goût de fraise. La rue des oubliés, la rue des émigrés, la rue des retrouvailles. Du polac aux mains, tous l'aiguille à la main, trimés pour leur marmaille. Il faut être malin pour garnir d'ocumin le pain noir, la volaille. Encore un bel été, un mois de liberté avant que ça déraille. Il n'y a plus de roses dans la rue des Rosiers. Il n'y a plus de roses, elles sont mortes un été. Une étoile au veston, ce n'est pas une prison, peut-être une malchance. Il faut être logique, l'allemand c'est la musique, c'est la dernière chance. Quand vient le grand matin, il n'y a pas de tocsin, on frappe à votre porte. Dans la rue des camions, serrés comme des lampions, les étoiles se déportent. Un peu plus chaque nuit, d'autres vies qui s'enfuient, ouvrez toutes les portes. Quel est donc en plein jour ce désert sans contour, quelle est cette rue morte? C'était en plein marais, un peuple qui grouillait, un peuple d'enfants sages. Une rue qui grondait, une rue qui chantait l'espoir comme l'orage. Il n'y a plus de roses dans la rue des Rosiers. Il n'y a plus de roses, elles sont mortes à l'été. Dans la rue des Rosiers, que fleurissent les roses sur les anciens rosiers.
La vie dans les camps. Extrait du chapitre La Nasse. Le 13 avril, nous avons été embarqués à 5 heures du matin pour une nouvelle étape dans cette descente aux enfers qui semblait sans fin. Des autobus nous ont conduits à la gare de Bobigny où l'on nous a fait monter dans des wagons à bestiaux formant un convoi aussitôt parti vers l'est. Comme il ne faisait ni trop froid ni trop chaud, le cauchemar n'a pas tourné au drame et dans le wagon où nous nous trouvions tous les trois, personne n'est mort au cours du voyage. Nous étions cependant effroyablement serrés, une soixantaine d'hommes, de femmes, d'enfants, de personnes âgées, mais pas de malades. Tout le monde se poussait pour gagner un peu de place. Il fallait se relayer pour s'asseoir ou s'allonger un peu. Il n'y avait pas de soldats au-dessus des wagons. La surveillance du convoi était seulement assurée par des SS dans chaque gare où ils s'arrêtaient. Ils longeaient alors les wagons pour prévenir que si quelqu'un tentait de s'évader, tous les occupants du wagon seraient fusillés. Notre soumission donne la mesure de notre ignorance. Si nous avions pu imaginer ce qui nous attendait, nous aurions supplié les jeunes de prendre tous les risques pour sauter du train. Tout était préférable à ce que nous allions subir. Le voyage a duré 2 jours et demi, du 13 avril à l'aube au 15 au soir, à Auschwitz-Birkenau. C'est une des dates que je n'oublierai jamais, avec celle du 18 janvier 1945, jour où nous avons quitté Auschwitz, et celle du retour en France, le 23 mai 1945. Elles constituent les points de repère de ma vie. Je peux oublier beaucoup de choses, mais pas ces dates. Elles demeurent attachées à mon être le plus profond, comme le tatouage du numéro 78-651 sur la peau de mon bras gauche. À tout jamais, elles sont les traces indélébiles de ce que j'ai vécu. Extrait du chapitre « L'enfer ». Le convoi s'est immobilisé en pleine nuit. Avant même l'ouverture des portes, nous avons été assaillis par les cris des SS et les aboiements des chiens. Puis les projecteurs aveuglants, la rampe de débarquement, la scène avait un caractère irréel. On nous arrachait à l'horreur du voyage pour nous précipiter en plein cauchemar. Nous étions au terme du périple, le camp d'Auschwitz-Birkenau.
J'ai suivi la ligne de chemin de fer qui passe sous la grande porte cochère de Birkenau et qui se termine au butoir du crématorium numéro 4. J'ai vu le plan incliné qui conduit doucement vers la salle de douche où l'on pouvait gazer 40 000 personnes par jour.
Les nazis ne laissaient rien au hasard. Nous étions accueillis par des bagnards que nous avons aussitôt identifiés comme des déportés français. Ils se tenaient sur le quai en répétant « Laissez vos bagages dans les wagons. Mettez-vous en file. Avancez. » Après quelques secondes d'hésitation, tout le monde s'exécutait. Quelques femmes gardèrent leurs sacs à main sans que personne ne s'y oppose. « Vite, vite. » Il fallait faire vite. Soudain, j'ai entendu à mon oreille une voix inconnue me demander « Quel âge as-tu ?» À ma réponse « 16 ans et demi. » a succédé une consigne. « Surtout, dis bien que tu en as 18. » Par la suite, en interrogeant des camarades aussi jeunes que moi, j'ai appris qu'elles aussi avaient sauvé leur peau parce qu'elles avaient suivi le même conseil murmuré à l'oreille. « Dis que tu as 18 ans. » La file est arrivée devant les SS qui opéraient la sélection, avec la même rapidité. Certains disaient « Si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas envie de marcher, montez dans les camions. » Nous avons répondu « Non, on préfère se dégourdir les jambes. » Beaucoup de personnes acceptaient ce qu'elles croyaient être une marque de sollicitude. Surtout les femmes avec des enfants en bas âge. Dès qu'un camion était plein, il démarrait. Quand un SS m'a demandé mon âge, j'ai spontanément répondu « 18 ans ». C'est ainsi que toutes les trois nous avons échappé à la séparation et sommes demeurées ensemble dans la file des femmes. Bien qu'elles aient été opérées peu de temps auparavant de la vésicule biliaire et conservé des séquelles de cette intervention, maman, qui avait alors 44 ans, conservait une allure jeune. Elle était belle et d'une grande dignité. Milou avait alors 21 ans. Nous avons marché avec les autres femmes, celles de la bonne file, jusqu'à un bâtiment éloigné, en béton, muni d'une seule fenêtre, où nous attendaient les capots, des brutes, même si c'était des déportés comme nous et pas des SS. Elles hurlaient leurs ordres avec une telle agressivité que tout de suite, nous nous sommes demandé « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Elles nous pressaient sans ménagement « Donnez-nous tout ce que vous avez, parce que de toute façon, vous ne garderez rien. » Nous avons tout donné, bijoux, montres, alliances. Avec nous se trouvait une amie de Nice, arrêtée le même jour que moi. Elle conservait sur elle un petit flacon de parfum de l'an 20. Elle m'a dit « On va nous le prendre, mais moi je ne veux pas le donner, mon parfum. » Alors, à 3 ou 4 filles, nous nous sommes aspergées de parfum. Notre dernier geste d'adolescente coquette. De petits groupes s'étaient spontanément formés. Les filles plus jeunes de leur côté, les plus âgées entre elles. Et tout le monde discutait à voix basse en échafaudant des hypothèses sur un sort dont nous ignorions tout. Puis les capots nous ont fait lever et mettre en rang, par ordre alphabétique, et nous sommes passés l'une après l'autre devant des déportés qui nous ont tatoués. Aussitôt m'est venue la pensée que ce qui nous arrivait était irréversible. On est là pour ne plus sortir. Il n'y a aucun espoir. Nous ne sommes plus des personnes humaines, seulement du bétail. Un tatouage, c'est indélébile. C'était sinistrement vrai. À compter de cet instant, chacune d'entre nous est devenue un simple numéro, inscrit dans sa chair. Un numéro qu'il fallait savoir par cœur, puisque nous avions perdu toute identité. Dans les registres du camp, chaque femme était enregistrée à son numéro avec le prénom de Sarah. Dès notre arrivée au camp, nous avons retrouvé les mêmes clivages, de génération que dehors. Aux yeux des aînés, les plus jeunes se montraient irresponsables et cervelés. Les jours où nous restions au bloc, parce que nous ne travaillions pas, nos bavardages reflétaient ce clivage. Les jeunes femmes évoquaient indéfiniment leurs amours, ce qui faisait rire les adolescentes. Je m'étais rapidement fait 2 amies, Marceline Loridan, qui faisait partie du même convoi que moi, vivante, gaie, plus jeune de 18 mois, et Ginette qui avait le même âge que moi. Au début, notre bloc était presque uniquement constitué de Françaises. Petit à petit, au gré des commandos auxquels nous étions affectés, quelques changements sont intervenus, mais nous sommes essentiellement restés entre Françaises. La surveillance et le contrôle étaient assurés par celles qu'on appelait les Stubova, des Juifs déportés comme nous, le plus souvent polonaises. Les sévices lourds restaient le privilège des SS, mais ces filles ne se gênaient pas pour nous distribuer des gifles et des coups. Tout au long de ma détention, elles se sont montrées plutôt gentilles avec moi, comme elles l'étaient d'ailleurs avec les plus jeunes. Nous nous heurtions alors à un autre problème. Il fallait se méfier lorsqu'elles devenaient trop entreprenantes. La plupart d'entre nous avions beau être naïves et innocentes, nous étions suffisamment alertées. Nous savions que si une capot offrait une tartine avec du sucre, elle ne tarderait pas à dire « Ah, si on dormait là toutes les deux, ça serait si bien ?» Il fallait avoir le courage de lui répondre « Merci, ça va, je n'ai pas sommeil. » Cette ambiguïté sexuelle rôdait en permanence dans les rapports de ces femmes avec les plus jeunes. Aujourd'hui, il suffit d'évoquer ce genre de situation pour que d'anciens déportés s'en scandalisent. Ils oublient que des jeunes gens ont survécu grâce à des protections de ce genre, accompagnées ou non de contreparties. Quant à moi, je me refuse à tout jugement dans ce domaine.
Nuit du lundi 5 au mardi 6 juin 1944, nuit historique. Les Anglo-Américains débarquent sur le sol de Normandie. Dans la nuit, des milliers de tonnes d'acier s'abattent sur les navires où pilonnent les défenses allemandes. Des unités légères prennent pied sur le rivage. Et voici l'aube, au large, l'impressionnante flotte anglo-américaine.
Nous avons appris dès le 7 juin, je crois, que les Alliés venaient de débarquer. Le bruit en avait souvent couru. Ce jour-là, c'est un fragment de journal reproduisant la carte de la côte normande et précisant les lieux du débarquement que j'ai ramassé par terre. Je demeure convaincue que la femme SS qui nous surveillait l'avait laissé traîner à dessein. Un matin, alors que nous sortions du camp pour aller au travail, la chef du camp Stenia, ancienne prostituée, terriblement dure avec les autres déportés, m'a sorti du rang. « Tu es vraiment trop jolie pour mourir ici. Je vais faire quelque chose pour toi. » En t'envoyant ailleurs, je lui ai répondu « Oui, mais j'ai une mère et une sœur. Je ne peux pas accepter d'aller ailleurs si elles ne viennent pas avec moi. » À ma grande surprise, elle a acquiescé. « D'accord, elles viendront avec toi. » Tous les gens auxquels j'ai par la suite raconté cet épisode sont restés stupéfaits. Il s'est pourtant déroulé ainsi. Fait incroyable, cette femme que je n'ai par la suite croisée que deux ou trois fois dans le camp ne m'a jamais rien demandé en échange. Tout s'est donc passé comme si ma jeunesse et le désir de vivre qui m'habitait m'avaient protégée. Ce qui en moi semblait encore appartenir à un autre monde m'avait sorti du lot par l'intermédiaire de cette Polonaise brutale, devenue par je ne sais quelle chance une bonne fée pour ma mère, ma sœur et moi-même. En effet, elle tint sa promesse. Quelques jours plus tard, nous avons été toutes les trois transférées dans un commando moins dur que les autres, à Bobrek, où l'on travaillait pour Siemens. Avant notre départ, nous avons subi une visite médicale. Sans l'assistance de Stenia, le docteur Mengele, déjà bien identifié dans le camp comme criminel, aurait écarté maman dont la santé avait déjà décliné. Nous sommes restés à Bobrek, à 4 ou 5 kilomètres de Birkenau, de juillet 1944 à janvier 1945. Sont parties avec nous trois femmes communistes, déportées comme juives, une Polonaise et deux Françaises. Toutes les trois avaient d'abord été affectées au bloc d'expérience médicale, où elles n'avaient subi que des prélèvements anodins pour leur santé. C'est la protection de femmes médecins communistes qui leur permit ensuite d'aller à Bobrek, ces médecins leur ayant précisé. On nous demande maintenant de nous livrer sur vous à des expériences dont nous sommes incapables de mesurer les conséquences. Nous allons tout faire pour que vous partiez parce que nous ne savons pas du tout comment les choses vont tourner. Et c'est ainsi que ces trois femmes sont parties avec nous. Pendant toute cette période, maman, Milou et moi avons réussi à ne pas être séparées. Même si maman a commencé alors à s'affaiblir, elle a toujours travaillé. Nous faisions tout pour la protéger. Nous n'avions guère plus à manger qu'à Auschwitz. Mais comme le travail n'était pas aussi épuisant, cela suffisait à nous maintenir en vie. Parfois, la nourriture était un peu moins infecte. Sans doute parce que Siemens avait besoin de travailleurs, qui aient un minimum de rendement. On nous servait parfois une soupe enrichie de légumes séchés ou de pommes de terre, alors que la soupe d'Auschwitz ne contenait guère mieux que des orties et jamais de viande. À Bobrek, le cuisinier des SS, un juif allemand, aidait les Français à ne pas dépérir, grâce à des soupes un peu plus consistantes, sans doute prélevées sur le menu des SS. Il avait été arrêté en France. Son histoire, qu'il racontait volontiers, prenait des allures d'épopée. Il était parti d'Allemagne avant la guerre pour aller vivre en Palestine, en compagnie de son épouse, une luxembourgeoise. Mais le couple n'avait pas marché. En 1939, il était donc revenu en Allemagne, avant de fuir à nouveau en France, où il se fit arrêter. Le destin qu'il avait tout fait pour fuir l'avait rattrapé. À Bobrec, il avait à cœur d'aider les plus jeunes, témoignant comme beaucoup d'autres qu'une profonde solidarité pouvait lier les déportés entre eux. Au camp de Buchenwald, par exemple, où se trouvait un groupe d'enfants, qui dans les autres camps étaient presque tous gazés à l'arrivée, ce sont souvent des communistes qui, grâce à la place privilégiée qu'ils étaient parvenus à occuper au sein de l'administration, les ont sauvés. Soudain, l'avance des troupes soviétiques fit paniquer les autorités allemandes. Il faut dire que les bombardements aériens devenaient de plus en plus fréquents dans le secteur d'Auschwitz. Sur la route qui longeait le commando, on voyait depuis la fin de l'année des troupes allemandes en repli, dans le désordre. Le 18 janvier 1945, le commando de Bobrec reçut l'ordre de départ. Nous sommes donc partis à pied pour l'usine Buna, située dans l'enceinte d'Auschwitz-Birkenau. Nous y avons rejoint tous les autres détenus des camps d'Auschwitz, environ 40 000 personnes, et avons entamé cette mémorable longue marche de la mort, véritable cauchemar des survivants, par un froid de quelques 30 degrés en dessous de zéro. Ce fut un épisode particulièrement atroce. Ceux qui tombaient étaient aussitôt abattus. Les SS et les vieux soldats de la Wehrmacht qu'ils encadraient jouaient leur peau et le savaient. Il leur fallait à tout prix fuir l'avance des Russes, tenter d'échapper coûte que coûte à la mort qui les poursuivait. Enfin, nous sommes parvenus à Glewitz, à 70 kilomètres plus à l'ouest. Je dis bien 70, où s'opérait le regroupement des déportés qui avaient réussi à survivre. La proximité croissante des troupes soviétiques affolait tellement les Allemands que nous nous sommes alors demandé si nous n'allions pas tous être exterminés. Nous attendions notre sort. Hommes et femmes mélangés dans ce camp épouvantable, où il n'y avait plus rien. Aucune organisation, aucune nourriture, aucune lumière. Certains hommes exerçaient sur les femmes un chantage épouvantable. Comprenez-nous, on n'a pas vu de femmes depuis des années. C'était l'enfer de tente.
Après l'attentat manqué contre le chef de l'État allemand, cet aspect de la pièce du grand quartier général où le Führer s'entretenait avec ses collaborateurs atteste la puissance de l'explosion.
Je me souviens d'un petit Hongrois, très gentil. Il avait dans les 13 ans et son désarroi était tel que nous l'avions recueilli par pitié. Il me disait « Les hommes, ils m'ont abandonné. Je suis tout seul. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas comment trouver à manger. N'empêche que les hommes, ils seront bien contents tout de même de nous retrouver quand il n'y aura plus de femmes. » C'était à fendre le cœur. Je me demandais en mon fort intérieur que vont devenir ces jeunes s'ils parviennent à échapper à cet enfer. Un autre garçon que j'ai connu et qui s'est trouvé dans cette situation atroce de soumission aux hommes a fait, après la guerre, de brillantes études et effectué un parcours professionnel d'exception. Il a aidé beaucoup de ses camarades qu'il a retrouvés et a fondé une superbe famille. Quand nous venons à évoquer cette époque, sa femme dit simplement « Il ne parle jamais du camp ». Pourquoi les nazis n'ont-ils pas tué les juifs sur place plutôt que de les embarquer dans leur propre fuite? La réponse est simple, pour ne pas laisser de traces derrière eux. Il ne s'agissait même pas dans leur esprit de nous conserver comme future monnaie d'échange, mais simplement de nous faire disparaître par les moyens les plus discrets. Notre chance a été que le camp d'Auschwitz était encore trop peuplé pour qu'une complète, rapide et discrète élimination soit envisageable. Notre convoi a roulé jusqu'au camp de Dora, commando de Buchenwald. À cause du froid et de l'absence de nourriture, bon nombre d'entre nous avaient péri durant le voyage. Nous sommes les seules femmes à être passées par Dora. C'était un camp pour hommes, très dur, où les déportés travaillaient au fond d'un tunnel à la fabrication des fameux V2. La terreur régnait partout. Très peu de déportés en ont d'ailleurs échappé. Après 2 jours de nouvelles incertitudes et d'angoisses, le petit groupe de femmes dont nous faisions partie a été expédié à Bergen-Belsen, entre Hambourg et Hanovre, au nord de l'Allemagne, dans une région où les troupes alliées sont arrivées très tard. Les nazis avaient ajouté à notre convoi des tziganes, arrêtés peu de temps avant, car malgré l'atmosphère de débâcle qui régnait partout, la folie allemande des arrestations continuait. C'est vers Bergen-Belsen, compte tenu de la situation géographique, que convergeaient des milieux de déportés venus de tous les camps de l'Est, y compris des résistants. On y trouvait aussi des Françaises, épouses d'officiers et de sous-officiers juifs, détenus au camp de prisonniers de l'EPEC. Nous sommes arrivés à Bergen-Belsen le 30 janvier. À Bergen-Belsen, les détenus ne travaillaient pas et le camp, ouvert naguère pour accueillir des déportés à statut spécial, était désormais totalement submergé par ce déferlement de déportés de toute provenance. Les conditions de vie, si l'on peut encore employer cette formule, y étaient épouvantables. Il n'y avait plus d'encadrement administratif. Presque pas de nourriture, pas le moindre soin médical. L'eau elle-même faisait défaut, la plupart des canalisations ayant éclaté. Et comme si tout cela ne suffisait pas au malheur des silhouettes squelettiques qui erraient à la recherche de nourriture, une épidémie de typhus s'était déclarée. Ajoutée à la faim, elle entraînait une effrayante mortalité. L'enlèvement des cadavres n'était plus assuré, de sorte que les morts se mêlaient aux vivants. Dans les dernières semaines, la situation y devint telle que des cas de cannibalisme apparurent. Les SS paniquaient autant par l'atmosphère de débâcle militaire qui gagnait toute l'Allemagne que par les risques de contagion, se contentaient de garder le camp où affluaient sans cesse de nouveaux juifs venus de toute l'Allemagne. Hormis ces quelques SS, les Allemands ne s'occupaient plus du camp. Bergen-Belsen était devenu le double symbole de l'horreur, de la déportation et de l'agonie de l'Allemagne. Ceux qui s'étaient rêvés maîtres du monde étaient devenus aussi vulnérables que leurs propres victimes. À Bergen-Belsen, le hasard a voulu que je retourne sur la Geralteste, cette ancienne prostituée qui nous avait déjà sauvé la vie à Birkenau. Elle avait suivi la débâcle des camps et était devenue chef du camp de Bergen-Belsen. Elle m'a reconnue tout de suite et m'a dit de venir la voir le lendemain matin, avant que la journée ne commence, ce que j'ai fait. Elle m'a aussi tout placé à la cuisine des SS. Ce nouveau geste nous a sans doute évité de mourir de faim, comme tant d'autres. L'attitude de cette femme à mon égard est toujours demeurée un mystère pour moi. Dans les jours qui suivirent la libération du camp, j'ai appris qu'elle avait été pendue par les Britanniques. Toute la journée, je devais râper des pommes de terre, au point d'avoir les mains en sang. Je m'y appliquais avec la dernière énergie, redoutant plus que tout d'être renvoyée de cette cuisine, où, malgré ma peur et ma maladresse, je parvenais à voler un peu de nourriture pour maman et Milou. Une fois, je me suis fait prendre par un SS avec un peu de sucre. Il s'est contenté d'une sévère correction avant de me laisser repartir avec le sucre. Le travail à la cuisine était aussi rude que la vie dans le reste du camp. Les derniers temps, je ne dormais guère plus de 2 ou 3 heures par nuit en raison des alertes incessantes. Nous quittions la cuisine si tard que je dormais en marchant. Les bombardements de plus en plus fréquents empêchaient souvent notre retour aux baraques dans lesquelles il n'y avait fréquemment plus aucune place pour s'allonger, ni même pour s'asseoir. Le matin, nous nous levions avant le jour pour être prêts à partir dans les commandos dès l'aube, épuisés par le manque de sommeil, mais cherchant à tout prix à ne pas nous faire remarquer, car travailler à la cuisine des SS constituait la fragile assurance de ne pas mourir de faim. Maman était déjà très affaiblie par la détention. Le travail pénible, le voyage épuisant à travers la Pologne, la Tchécoslovaquie et l'Allemagne. Elle n'a pas tardé à attraper le typhus. Elle s'est battue avec le courage et l'abnégation dont elle était capable. Elle conservait la même lucidité sur les choses, le même jugement sur les êtres, la même stupeur face à ce que des hommes étaient capables de faire, endurer à d'autres hommes. En dépit de l'attention que Milou et moi lui prêtions, malgré le peu de nourriture que je parvenais à voler pour la soutenir, son état s'est rapidement détérioré. Sans médicaments ni médecin, nous étions incapables de la soigner. Jour après jour, nous la voyions décliner, assister avec impuissance à la fin lente, mais certaine de celle que nous chérissions plus que tout au monde. Nous étions insoutenables. Elle est morte le 15 mars, alors que je travaillais à la cuisine. Lorsque Milou m'a informé à mon retour, le soir, je lui ai dit, c'est le typhus qui l'a tuée, mais tout en elle était épuisé. Aujourd'hui encore, plus de 60 ans après, je me rends compte que je n'ai jamais pu me résigner à sa disparition. D'une certaine façon, je ne l'ai pas acceptée. Chaque jour, maman se tient près de moi, et je sais que ce que j'ai pu accomplir dans ma vie l'a été grâce à elle. C'est elle qui m'a animée et donné la volonté d'agir. Sans doute n'ai-je pas la même indulgence qu'elle. Sur bien des points, elle me jugerait avec une certaine sévérité. Elle me trouverait peu conciliante, pas toujours assez douce avec les autres. Et elle n'aurait pas tort. Pour toutes ces raisons, elle demeure mon modèle, car elle a toujours su affirmer des convictions très fortes, tout en faisant preuve de modération, une sagesse dont je sais que je ne suis pas toujours capable. Début avril, nous avons senti que le dénouement était proche. D'un jour à l'autre, les bombardements se rapprochaient. Milou n'allait pas bien. Elle aussi avait contracté le typhus. Je la réconfortais du mieux que je pouvais. Écoute, il faut tenir le coup et ne pas se laisser aller, parce que nous allons être libérés très vite. Lorsque je rentrais du travail, je lui répétais, tu verras. C'est pour demain. Tiens bon, tiens bon. Et chaque nuit, alors qu'à cause des alertes, l'éclairage était coupé et que je ne pouvais réintégrer notre baraque, la peur me saisissait. Allais-je retrouver Milou en vie? Cette idée qu'après ma mère, ma sœur risquait de ne pas rentrer en France avec moi, m'anéantissait. Je me forçais donc à tenir le coup, à rester vaillante malgré les quelques symptômes du typhus que je ressentais et que les médecins m'ont confirmé après la libération du camp. Je m'en suis assez vite remise.
C'est bien la fin d'une horreur sans nom pour les détenus du camp de Belsen, où 60 000 hommes, femmes et enfants ont vu arriver les troupes anglaises, comme ceux de Ravensbrück, de Buchenwald, d'Auschwitz et d'ailleurs, ces malheureux arrachés à tous les coins de l'Europe étaient promis à l'extermination.
Bergen-Belsen a été libéré le 15 avril. Les troupes anglaises ont pris possession du camp sans rencontrer la moindre résistance, malgré la présence résiduelle des SS. En fait, Allemagne et Anglais avaient signé un accord 2 ou 3 jours plus tôt, tant la crainte du typhus terrorisait les Allemands. Pour moi, ce jour de libération compte cependant parmi les plus tristes de cette longue période. Je travaillais à la cuisine dans un bâtiment séparé, et dès que les Anglais sont arrivés, ils ont isolé le camp avec des barbelés infranchissables. Je n'ai donc pas pu rejoindre ma sœur. Le fait de ne pas pouvoir partager ma joie et mon soulagement avec elle a constitué une épreuve supplémentaire. Nous étions restés 13 mois ensemble, sans jamais être séparés. Une chance extraordinaire. Et le jour où le cauchemar prenait fin, nous nous trouvions éloignés l'une de l'autre. Il nous a fallu attendre le lendemain pour nous retrouver et pouvoir enfin nous étreindre. Nous étions libérés, mais pas encore libres.
A mole is given, a mice. Die mice is gone it freilich. Die mice hebt sich ohne. Mit a jiddisch Melech Lulin käm ein Fägele Lulin käm ein Kind Chobom geworden as a Liebe Wey is mir un Wind Der Melech hat gehat a Malke Die Malke hat gehat a Weingarten Der Weingarten hat gehat a Bäum Lulin käm ein Kind Lulin käm ein Fägele Lulin käm ein Kind Chobom geworden as a Liebe Wey is mir un Der Bäum hat gehat a Zweig, der Zweig hat gehat a Nestele, in Nestele is gewen a Fägele, Lulin käm ein Kind, Lulin käm ein Fägele, Lulin käm ein Kind, Chobom geworden as a Liebe, Wey is mir un Wind. Der Melech is ob gestorben, die Malke is geworden verdorben, der Zweig is ob gebrochen, das Fägele vom Nest entlaufen.
C'est avec Talila et cette berceuse yiddish que nous continuons cette seconde partie de cet hommage à Simone Veil pendant toute la semaine. Vous avez donc entendu, par l'intermédiaire de Sandrine Bonner, la vie de Simone Veil à l'intérieur du camp et l'annonce de la libération. Simone Veil écrit dans une vie « Nous étions libérés, mais pas encore libres ». Dans cette deuxième partie de cette émission, nous avons la chance d'avoir avec nous Serge Klarsfeld. Serge Klarsfeld, quand avez-vous rencontré pour la première fois Simone Veil?
Je pense que c'était en 1941 ou 42, puisque nous allions au même établissement scolaire, le lycée de jeunes filles. Simone Veil était en seconde. Ma sœur était en sixième ou cinquième, et moi j'étais dans les petites classes où les garçons étaient acceptés. Mais je ne l'ai pas connue, Simone Veil, à ce moment-là. Je l'ai connue pour la première fois en 1978, quand j'ai publié le Mémorial de la déportation des Juifs de France. Elle m'a fait venir parce qu'elle voulait savoir quel avait été le sort de son père et de son frère, et à ce moment-là, je lui ai révélé que son père et son frère n'étaient pas allés à Auschwitz, mais étaient allés dans les pays baltes. Le convoi du 15 mai 1944 était parti vers les États baltes avec uniquement des hommes qui ont été tués soit en Lituanie, à Kaunas ou dans le camp de Przewieźniskis, ou bien en Estonie, dans un camp qui était proche de l'aéroport de Tallinn-Reval, la capitale aujourd'hui de l'Estonie. Elle était impressionnée par cette révélation et plus tard, en 1980, elle m'a fait décorer de l'Ordre du Mérite, la première décoration que j'ai reçue par Alain Poher, président du Sénat, avec qui elle était proche, très proche, depuis la libération et depuis le début de sa carrière politique. Ben ensuite, il y a eu l'affaire Barbie. Et bon, là, on a eu des dissentiments entre nous parce que elle était partisan de l'exécution de Klaus Barbie et moi qui avait évité justement toute action violente vis-à-vis des criminels, parce que je considérais que la victoire c'était de les faire juger soit en France, soit par leurs enfants. Je veux dire, vu la différence d'âge, le temps qui s'était passé, ils auraient été jugés par la génération de leurs enfants. Et que de voir leurs propres enfants les condamner sur la foi des preuves qu'on avait apportées, c'était préférable à un règlement de compte. Donc, là, à ce moment-là, on a eu des dissentiments. On a eu des dissentiments aussi dans les affaires Bousquet, Le Guet.
Quel type de dissentiment? Parce qu'elle connaissait Bousquet.
Elle connaissait Bousquet, mais elle ne savait pas qui avait été Bousquet. Et son mari non plus ne savait pas qui avait été Bousquet dans une autre vie, une autre période. Et en tout cas, d'ailleurs, Simone Veil, un peu comme moi, n'a jamais été persécutée par Vichy. Je n'ai jamais eu à avoir peur de Vichy. Simone Veil n'a jamais eu à avoir peur de Vichy. À Nice, où nous vivions, quand les Allemands sont entrés, eh bien les Juifs français n'avaient pas été menacés, et les Juifs roumains, roumains, n'avaient pas été menacés non plus lors de la grande rafle des Juifs étrangers dans la zone libre. Donc Simone Veil a été arrêtée par les Allemands, et moi j'ai eu aussi à craindre que les Allemands, donc on n'a pas eu de dissentiment avec la France. Parce qu'à l'époque, étant tout jeune, bon, on ne savait même pas que la police française arrêtait les Juifs. Moi, je l'ai appris après la guerre. Et donc, on n'a pas eu de rupture avec la France. Et sinon, je ne pense pas qu'elle aurait fait la carrière politique qu'elle a faite, si elle avait eu cette cicatrice que les enfants juifs en général ont au cœur d'avoir vu leurs parents arrêtés par la police française, par des uniformes français. Et moi non plus, je serais parti de France si j'avais vu des policiers français venir m'arrêter, arrêter mon père, je serais parti de France, je crois. Ensuite, on a eu encore des rapprochements, puisque elle est devenue présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et moi j'étais actif, très actif au sein de cette fondation, et donc ensemble on a fait beaucoup on a mis en beaucoup de projets. On a réussi à mettre, concrétiser beaucoup de projets importants. Je dirais le mémorial de Drancy, le mémorial du camp des Milles, la restauration de la rampe des Juifs sur laquelle elle est arrivée par le dernier convoi venu de France qui s'est arrêté sur cette rampe à l'extérieur du camp de Birkenau, alors que beaucoup de gens pensaient que les trains allaient, depuis le début de la création de Birkenau, aller à l'intérieur. Mais moi, je me suis battu dès le début, dès les années 80, pour dire que non, les trains n'étaient arrivés qu'à partir du 15 mai 1944. Et Simone Veil, qui est arrivée le 15 avril 1944 à Birkenau, eh bien, elle est arrivée à l'extérieur, donc il fallait, disons, procéder à la restauration de cette rampe. On a fait beaucoup, on a beaucoup travaillé ensemble, on a créé la collection témoignages, bon, on a eu un grand travail en commun.
Je vous propose d'écouter la voix de Simone Veil à propos de sa déportation. J'imagine, Serge Klarsfeld, que vous savez évidemment qu'après la guerre, il y a eu des commissions qui ont auditionné les survivants. Écoutez donc ce témoignage de Simone Veil, c'est une archive INA du 4 mars 1947.
Je vais maintenant passer la parole à Madame Veil, qui va nous parler de son expérience de déporté racial. Madame Veil, vous avez la parole.
Je voudrais seulement apporter ici le témoignage de ce que j'ai pu observer en Allemagne, au sujet de la race juive. Je me suis trouvée en contact à Auschwitz avec beaucoup d'Israélites déportés de tous les pays, de Hollande, de Grèce, de Belgique, de France, de Hongrie, de Tchécoslovaquie, de Pologne. D'après la théorie allemande de la race juive, ces gens auraient dû tous avoir un type commun. Or, j'ai remarqué très souvent que dès que je voyais une grecque et que je reconnaissais à son langage, je pouvais aussi la reconnaître en même temps à son type. Elle était en général brune et avait des yeux noisettes. De même, les Hollandaises, au lieu d'avoir un type sémite comme elles auraient dû avoir, avaient en général des cheveux blonds, des yeux bleus, étaient assez fortes et grandes. Les Hongroises, par contre, avaient les pommettes saillantes et les yeux tirés en longueur. Tous ces gens se regroupaient non pas d'après leur race, mais d'après leur nationalité. Quand ils étaient mélangés avec des Aryens, les Grecs juifs se regroupaient avec les Grecs ariennes, les Françaises juives se regroupaient avec les Françaises ariennes, et elles ne se regroupaient pas entre Grecs et Françaises juives et Grecs et Françaises ariennes.
Nous venons d'entendre donc le témoignage à l'Assemblée nationale de Simone Veil, c'était le 4 mars 1947. À quoi ça a servi tous ces témoignages? Parce que cette période-là était une période de silence, une période même presque de honte. Certains déportés survivants n'arrivaient pas à pouvoir exprimer ce qu'ils avaient vécu. Comment vous revivez et comment vous comprenez cette période-là aujourd'hui, Serge Klarsfeld? Il a fallu du temps pour faire entendre cette parole.
C'est-à-dire que ce n'était pas un titre de gloire d'avoir été déporté. Aujourd'hui, et depuis déjà 30 ans, c'est un titre, non pas de gloire, mais un titre d'exceptionnalité d'avoir été dans l'enfer. Vous avez parlé de l'enfer, d'avoir été dans l'enfer. Or, pour les familles juives, c'était l'enfer, parce que les résistants étaient pris pour ce qu'ils avaient fait eux-mêmes. On prenait pas leur famille. Aucun enfant résistant n'a été déporté de France. Tandis que ceux qui partaient, pour la plupart, avaient ou des parents, ou des conjoints, ou des enfants, qui partaient aussi, qui étaient déjà partis, qui allaient partir, et qui mourait dans des conditions effroyables, dans un camp d'extermination. D'être déporté pour ce qu'on a fait et de subir les conséquences, de souffrir, on peut souffrir, mais quand on sait que sa famille a été exterminée, qu'on est tout seul, il n'y a plus que l'instinct de survie qui reste, et c'était pas un titre de gloire. Moi, je marquais quand, à chaque rentrée de classe, on demandait profession du père, j'ai mis mort en déportation. J'aurais dû mettre assassiné à Auschwitz, ou assassiné en déportation. Mais à l'époque, mort en déportation, ça signifiait quoi? Ça signifiait peut-être qu'on disait mort de mort naturelle, etc. C'est pas qu'on avait honte, mais c'est que on n'avait rien à dire de particulier, puisque personne ne, la société ne s'intéressait pas aux déportés juifs, au sort des juifs. Tout le monde avait des problèmes. Les gens de l'arrière, vous le savez, quand les gens revenaient, et on leur disait « Ah ben, vous avez pas trop mauvaise mine, si vous saviez ce que nous avons eu comme privation en France, bon, etc., etc. » Donc, il a fallu 30 ans, à peu près, pour que les gens se rendent compte que ce qu'avaient subi les résistants dans les camps de concentration, c'était une sorte de norme, parce que normalement, on tuait les résistants, les opposants. Vous voyez, en Argentine, au Brésil, en Afrique, partout. On tue les opposants tout de suite. Là, on ne les a pas tués. On les a envoyés dans des camps où ils étaient soumis à des conditions effroyables. La moitié d'entre eux sont morts dans ces conditions-là. Mais les Juifs, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est le peuple le plus ancien qui ait traversé l'histoire, qui est exterminé par le peuple qui est le plus cultivé au monde au point de vue technique, au point de vue culture, au point de vue etc. Donc il y a un phénomène absolument exceptionnel. C'est élargi, est apparu au jour et donc à partir des années 75, la déportation des Juifs a pris le pas sur la déportation de ceux qui avaient résisté aux Allemands. Les Juifs n'ont pas résisté aux Allemands, les Juifs sont partis en famille, les Juifs ont été exterminés massivement par millions, et cela, c'est un phénomène qui interpelle surtout notre civilisation occidentale.
Nous allons écouter Simone Veil à propos de son sentiment de révolte. La révolte a toujours habité Simone Veil. La révolte se sent à l'intérieur des pages de ce livre qui a été publié en 2007 sous le titre « Une vie ». Nous allons entendre la voix de Simone Veil, c'était le 14 décembre 1999, donc bien longtemps avant qu'elle ne se décide à finalement transcrire des fragments de sa vie par un livre, c'était au micro d'Olivier Abel.
Pour moi, vraiment, le pardon, c'était essentiellement tout de même d'ordre très, très religieux. On a parlé de haine. Au fond, quand je considère cette époque, ce que je pensais, et plus encore ce que depuis 50 ans je pense sans cesse et qui est en moi très très profondément, c'est la révolte. Une révolte qui n'a jamais cessé. Je me sens toujours, c'est pas la vengeance, c'est pas, je n'accepterai jamais. Mais je n'accepterai jamais, je n'oublierai jamais, mais je veux dire que ma révolte, elle va aussi souvent au discours que l'on entend. C'est-à-dire, on dit Auschwitz, c'est une rupture, ça a changé le monde, comment peut-on croire en Dieu après Auschwitz? Mais en réalité, je crois que ce sont des phrases. Je ne crois pas que les gens le ressentent profondément et en tirent les conséquences. Parce que les mêmes, ça ne les empêche pas de dire « Oh, encore ces Juifs, ils demandent encore quelque chose, ils sont encore revendicateurs, ou bien on ne parle que d'eux, est-ce qu'on ne va pas finir par tourner la page et ne plus en parler ?» Et moi, je me souviens, enfant, quand on parlait des guerres de religion, on ne pensait pas du tout à ça. Les guerres de religion, ça faisait partie de notre histoire. On en était tous meurtris, pas seulement les protestants, même si les protestants n'étaient plus marqués. Ça avait marqué l'histoire de France. C'était normal que ça marque l'histoire de France. Alors je pense que l'histoire de la Shoah, elle doit marquer l'histoire du monde. Elle est un fait important, comme d'ailleurs le génocide du Rwanda.
Alors c'est politique quand même. Vous voyez ce que
non,
je veux dire.
C'est la mémoire, c'est affectif. Mais l'histoire, c'est pas complètement politique. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça parce que je crois que si les gens l'intègrent pas, c'est pour des raisons émotionnelles, et c'est pas pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques, au fond, ils le considéraient. Mais c'est parce qu'ils ne le ressentent pas, qu'ils n'en ont pas l'émotion, qu'ils ne l'ont pas vécu, qu'ils ne le réalisent pas, et qu'on a ce double discours. Et en définitive, un rejet vis-à-vis de choses qui vous gênent, qui vous indisposent, qui vous posent qui amènent à vous poser des questions et qu'on ne supporte pas. Et je dois dire que ça, indéfiniment, je me dis, je crois qu'au moment où je mourrai, cette révolte profonde que j'ai en moi, elle sera là, présente. Je ne peux pas la laisser, je ne peux pas. Ça m'empêche de vivre quelquefois, c'est très. C'est comme ça, c'est de la révolte. Et c'est de la révolte devant cette incompréhension définitive, d'une douleur immense. D'une douleur immense personnelle de gens qui, comme Simon Wiesenthal, ont perdu 89 personnes de leur famille, ce qui n'est pas ressenti, mais aussi de l'immensité de cette abomination d'avoir planifié et d'avoir réalisé, comme on ne l'a jamais fait, l'extermination d'un groupe, comme on l'a fait au Rwanda, sauf qu'au Rwanda ou en Cambodge, d'une certaine façon, il n'y avait pas les moyens techniques qui ont permis peut-être de le faire aussi bien, si j'ose dire, entre guillemets. Mais ça reste présent. Et c'est pour ça que quelquefois d'autres choses me paraissent un peu dérisoires.
Mémoire, histoire, transmission de la mémoire, révolte de Simone Veil qui l'habitait complètement et ce jusqu'à la fin de sa vie, Serge Klarsfeld. Vous avez fait de votre vie l'accomplissement de la mémoire et de la transmission de la mémoire. Ça a peut-être un peu adouci votre sentiment de révolte.
Non, j'ai commencé par la justice, premièrement. Faire juger les dirigeants de la solution finale en France, et puis faire juger leurs principaux complices impunis, comme Bousquet, Le Guay, Papon, Touvier. D'abord, être juif, il semble bien que pour Simone Veil, c'est bien un cas particulier que d'être juif. Et que les autres ne comprennent pas cette révolte qui appartient à Simone Veil, parce que elle fait partie du peuple juif et qu'elle a été persécutée en tant que juive. Je sais que cette révolte l'habitait. Je l'ai fréquentée quand même beaucoup. On a travaillé ensemble. Je sais que, comme moi, dans chaque témoignage, on se révolte de voir la souffrance, les souffrances indicibles qu'ont subies les familles juives, pas seulement dans leur chair, mais dans leurs affections, c'est-à-dire de voir mourir leurs proches. Et pas seulement d'avoir survécu. Simone Veil a vu mourir sa mère. Elle sait que son père et son frère sont morts également. Elle a vu souffrir sa sœur dans le camp. Pour le reste, je suis moins négatif qu'elle, parce que je pense que la Shoah est bien entrée dans nos sociétés occidentales, dans la tête des gens, mais dans le domaine de la connaissance plus que dans le domaine affectif, comme elle l'a dit dans son témoignage. Mais il s'agit de tout ce qui s'est passé dans l'histoire entre dans le domaine de la connaissance mémorielle, mais ça n'est absolument pas un barrage à la barbarie. C'est-à-dire que dès qu'il y a une crise, dès que les gens sont frustrés de quelque chose de profond, eh bien, les barrières sautent, les barrières de la mémoire, les barrières de la conscience sautent, et la barbarie peut revenir. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, où on sent que les gens sont de plus en plus violents. Les pays qui étaient réunis à l'intérieur de l'Europe, eh bien, il y a des partis qui militent pour se séparer de cette Europe, pour une Europe de nouveau de pays nationalistes, isolés, où ce sont les gens, les démagogues qui ont le pouvoir et qui préfèrent être au pouvoir dans un pays isolé, appauvri, avec des barbelés, etc., plutôt que être à l'intérieur d'une Europe fraternelle où chacun fait des efforts pour créer une nouvelle société, toujours plus humaine, etc. Et Simone Veil était humaine. La preuve, c'est ce qu'elle a fait pour la femme, disons dans son travail de ministre des Affaires sociales, a toujours été extrêmement humaine, et on le reconnaît aujourd'hui, on ne le reconnaissait pas particulièrement à l'époque. Je suis à la fois plus optimiste que Simone Veil sur la connaissance, et en même temps je suis pessimiste sur le rôle que la connaissance de l'histoire, la connaissance des souffrances passées, etc., peut jouer, disons, dans l'évolution des sociétés. Malheureusement, les longues périodes de paix, comme celles que nous venons de connaître, sont souvent suivies par des périodes de violence, parce que les gens ont oublié ce que signifie la souffrance. Regardez les jeunes. Bon, les jeunes de niveaux sociaux très différents peuvent partir en Amérique, ailleurs, etc. Ils n'ont pas connu la guerre, ils n'ont pas connu les souffrances, ils n'ont pas connu la perte d'un être cher, ils n'ont pas connu la faim même, ni la soif. Ils ont toujours une bouteille d'eau avec eux, etc. Donc, ce sont des gens qui sont prêts, de nouveau, s'ils sont frustrés, à écouter la voix des démagogues. Et quand on entend des gens comme moi qui entendent Hitler ou Mussolini ou Staline, etc., nous, on sait que les extrémismes de gauche et de droite conduisent au goulag, conduisent à Auschwitz, conduisent à une société de barbelés, à la fin de la liberté. Mais c'est très difficile de le faire comprendre aux nouvelles générations.
Merci beaucoup, Serge Klarsfeld.
C'est étrange, c'est ahurissant. Enfin, comme tu changes, du jour au lendemain, ton cœur change. Un jour près, un jour loin, la distance est pire présent que le venant. L'existence n'a pas le goût du destin, mais je pense que ton âme le savait bien. C'est étrange, on parle et ne sert à rien. Même un ange n'y comprendrait foutre rien.
C'est avec ce titre, cette chanson de Stéphane Echer, intitulée « Étrange » que nous allons nous quitter ce soir, en espérant vous retrouver demain. Merci à la famille Veil, merci à Sandrine Bonner pour sa lecture des extraits de ce texte de Simone Veil intitulé « Une vie », édité d'abord en 2007 par Stock et aujourd'hui disponible depuis 2009 en livre de poche. Vous pouvez retrouver sur le site de l'Heure Bleue sur franceinter.fr deux témoignages inédits autour de l'héritage de Simone Veil, de Samia Issaba et de David Teboul. Merci à Jean-Baptiste Audibert, merci à Anne-Sophie Dazard et Elodie Royer, et merci à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission.